Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
L'histoire d'aujourd'hui va nous faire faire une marche arrière de plus de 30 ans et nous faire entrer au cœur de l'une des plus grandes énigmes des années 80. La disparition de Philippe de Dieuleveux, un animateur de télé très populaire à l'époque, qui disparaît avec 6 de ses compagnons d'aventure alors qu'il participe à un raid en raft sur le fleuve Zaïre. Philippe de Dieuleveux et ses amis se sont-ils tout simplement noyés? Ont-ils été tués par l'armée zaïroise? Philippe était-il un espion de la DGSE, comme on a pu le dire à l'époque? Vous trouverez dans ce récit aujourd'hui toutes ces questions et quelques réponses. Et notamment grâce à l'enquête qu'a réalisée il y a quelques années son fils, Tuc Duhal de Dieuleveux, qui est là en face de moi. Voici donc cette histoire. Je l'ai écrite avec Cédric Lastenay, réalisation Céline Lebras.
Ondelat raconte sur Europe 1.
Cette histoire tragique nous fait remonter à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dit la chanson. Et même les moins de 30. 1984. Au moment où s'arrête l'une des émissions les plus célèbres de la télé française, La chasse au trésor. Animé par un reporter aventurier, Philippe de Dieuleveux, qui fait le tour du monde dans un hélicoptère à la recherche de trésors, aidé par des candidats qui, à Paris, ont des énigmes à résoudre. Tout ça dans une légendaire combinaison rouge. Ça vous rappelle quelque chose? Les vieux?
Je suis dans une autre pièce, il y a un piano, il y a une petite cheminée, des
vous êtes rentré à l'intérieur?
Ça peut être là. C'est en principe là où on a une fête.
Et donc, l'émission s'arrête et le baroudeur Philippe de Dieuleveux se retrouve les bras ballants, ce qui évidemment ne pouvait pas durer. Début 1985, un aventurier, par ailleurs ancien commandant de bord à Air Zaïre, André Hérault, l'appelle.
Oui Philippe, dis-moi, je suis en train de monter une expédition, je voudrais faire la traversée de l'Afrique par les fleuves, d'est en ouest, tu vois. On part de Tanzanie, on va jusqu'à l'Atlantique par le Zaïre. Ça n'a jamais été fait. Je te le dis tout de suite, c'est pas du gâteau, hein. Ça te dit d'en être? J'ai vu que t'avais arrêté ton émission.
Évidemment que ça lui dit. Il vient de passer 4 ans à faire le tour du monde dans un hélicoptère. Il a la bougeotte, il est partant. Départ prévu en juillet. Dans les 6 mois qui suivent, l'expédition se trouve un nom, Africa Raft, et un sponsor, Paris Match. Pas mal. Mais elle connaît quelques déconvenues. Elle devait partir de Tanzanie pour un raid de 5000 km, trop compliqué. Ils partiront finalement du Burundi, du lac Tanganyika, 2000 km jusqu'à l'Atlantique. Petit à petit, l'équipe se monte. Ils seront 8. André Hérault, l'organisateur, Philippe de Dieuleveux donc, qui veut réaliser un documentaire et qui a entraîné l'un de ses copains d'enfance dans l'aventure, François Laurenceau. Son caméraman, Marc Gurneau, et son technicien, Lucien Blockmans. Il y aura aussi Richard Janel, photographe à Match, un chef d'entreprise aventurier, Guy Collette, et Angelo Angelini, un mécanicien. Ça fait 8. Ils vont naviguer sur 2 radeaux, 4 dans chaque, à qui ils ont donné des petits noms, le Françoise et le Godelive. C'est Gérard Daboville, le célèbre navigateur, qui a conçu les 2 radeaux. Robustes, parce qu'ils vont devoir se frotter aux rochers dans la descente du fleuve Zaïre. 8 mètres de long avec de gros boudins pneumatiques de 80 cm de diamètre, équipés de panneaux solaires qui alimentent des radios qui permettront aux 2 radeaux de communiquer entre eux jusqu'à 70 km de distance. Les voilà sur place. Philippe de Dieuleveux, qui est un peu la tête de gondole de ce raid, frétille comme un gardon.
Relativement bien l'Afrique,
mais je ne connaissais pas du tout la région des Grands Lacs et je dois avouer que venir au Burundi, c'était pour moi un rêve. J'y suis, je suis sur le lac Tanganyika, je suis heureux et je vais partir donc avec toute l'équipe et nous allons donc tenter de sortir un document de 52 minutes, mais les conditions de tournage vont être difficiles, vous en doutez, avec l'humidité et avec l'eau sur laquelle nous serons tout le temps. Et ce que je vais faire découvrir, c'est par contre notre vraie aventure, l'aventure que nous allons vivre, la réaction des gens qui vont être sur les bateaux, confrontés aux problèmes donc de santé, de manger, de dormir. Ça ne va pas être drôle tous les jours, on le sait, mais on est là aussi pour se tester personnellement, pour savoir comment on est capable de réagir. Et je vais peut-être essayer de m'intéresser un peu plus justement aux réactions humaines, c'est ce qui m'intéresse dans ce film.
Ils ont prévu de partir de la rive burundaise du Tanganyika. Mais, vous savez ce que c'est, il manque toujours un tampon. Et l'équipe reste coincée au Burundi tout le mois de juin 85. Ils en profitent pour tester les rafts sur le Tanganyika. Le 2 juillet 1985, ça y est, tout est en règle. L'Africa Raft peut commencer. Et c'est pas de la tarte, cette expédition.
Il y a des rapides, c'est certain. De quelle force, on l'ignore. À l'endroit exact également. On sait que c'est avant Nyamba. Peut-être vers 60 km, je ne sais pas. De toute façon, on le verra. On descend la rivière.
Mais il a déjà eu des expéditions sur cette rivière
À ma connaissance, pas.
Normalement, ils devaient emmener des armes avec eux. 6 armes pour se protéger et pour chasser, pour manger. Ils ont dû les laisser au Burundi. Le 5 juillet, les deux rafts se lancent sur les sources du fleuve Zaïre. L'aventure commence. Et assez vite, premier incident sérieux. Des militaires zaïrois les visent avec leurs kalachnikovs depuis les rives du fleuve.
C'est comme dans les films, c'est-à-dire que les réflexes, ça va à toute vitesse. On voit à 15-20 mètres de nous quelqu'un qui épaule une kalachnikov. Bon, on se dit, le mec, s'il tire, on y passe, quoi. Donc, François Laurenceau, qui barrait le bateau, si mes souvenirs sont exacts, s'est transformé en feuille de papier à cigarette, a accéléré d'abord, et en même temps, il s'est transformé en feuille de papier à cigarette. En se couchant, moi, j'ai dû plonger au milieu des bactones à l'avant, et Philippe a plongé à l'eau en s'accrochant pour se protéger au cas où le gars tire. Il n'a pas tiré.
Il n'a pas tiré. Mais ce premier incident est la preuve que l'équipe ne sera pas confrontée qu'au danger du fleuve. Les 2 semaines qui suivent sont plutôt tranquilles. Philippe fait de belles images. Il s'arrête régulièrement pour se ravitailler dans les villes qui bordent le fleuve. Il pêche aussi. Et pour dormir, il s'installe sur les berges avec des moustiquaires. Disons que pour l'instant, c'est un voyage entre copains plutôt sympa. Il y a quelques petites galères, bien sûr. Le François se coince un jour contre un tronc d'arbre au milieu du fleuve. Mais bon, c'est pas une croisière du Club Med non plus. Le 18 juillet, les deux radeaux arrivent à Kisangani. C'est une grande ville au centre du Zaïre. En 13 jours, ils ont déjà effectué plus de la moitié du parcours. Et là, 2 équipiers débarquent. Marc, le caméraman, c'était prévu, et Philippe de Dieuleveux. Il s'absente pour 15 jours. Ça, c'est un truc qu'il n'a pas pu négocier avec Diane, sa femme. Elle va accoucher. Ils ont déjà 2 petits garçons, Erwan et Tugdual. Ils attendent le 3e. Il a promis d'être là. Et donc, il décroche pour quelque temps de l'aventure. Il reviendra quand le bébé sera né. Philippe va profiter de ce voyage à Paris pour déjeuner avec Christian Proutot. Il faut que je vous raconte cet épisode parce qu'il va nourrir le fantasme selon lequel Philippe était un espion. Christian Proutot est en effet l'ancien patron du GIGN et à cette époque-là, il est en charge de la sécurité de l'Élysée. Vous voyez ce qui nourrit le fantasme. Sauf qu'il va le voir pour lui parler d'un projet de documentaire sur le GIGN. Et à la fin du repas, il lui dit « Dis donc Christian, avant de repartir au Zaïre, j'aurais besoin de récupérer des moyens radio et puis des carabines de survie. Les Burundais ne nous ont pas laissé prendre des armes. T'aurais ça ?» Les carabines de survie sont des petites carabines pliantes, qui sont faciles à cacher. Et bien sûr que Proutot peut lui en procurer. Le soir même, Philippe recrute à Paris un nouveau coéquipier, un de ses copains, Jean-Louis Amblard. Jean-Louis, l'expédition a pris du retard, il y a une place de libre. Donc, si tu veux, tu nous rejoins. Les autres sont déjà au courant. Bah, si t'es partant, on prend l'avion dans 2 jours. Et Jean-Louis accepte. Et les deux hommes s'envolent vers Kinshasa, la capitale du Zaïre, le 1er août. Et ils retrouvent les autres au bord du fleuve, avec un ami de Guy Collette qui a rejoint lui aussi l'aventure. Moi, le caméraman, qui n'est pas revenu, maintenant, ils sont 9 pour boucler le raid. Il leur reste 150 km à parcourir sur le Zaïre. Mais c'est la partie la plus difficile, la partie la plus dangereuse. Il y a des rapides, beaucoup de rapides, près du barrage d'Inga, notamment. Alors ils commencent par faire un repérage en avion. Et ça leur fiche la trouille. Il y a des endroits où le débit du fleuve est énorme, les courants extrêmement puissants. A priori, personne n'est jamais passé par là. Le 3 août, c'est le départ.
À bientôt.
Au revoir.
En sortant du port de Kinshasa, les radeaux passent à côté du bateau du président Mobutu. Philippe a accroché une caméra sur le Françoise pour filmer dans les rapides. Il croise un bateau échoué sur les rochers comme un avertissement. Attention, danger. Et assez vite, les voilà embarqués dans des tourbillons phénoménaux.
Quand nous passons dans les remous, il est impossible de diriger le bateau. Il y a des tourbillons qui font peut-être un diamètre de 5, 6, 7, 8 mètres. Et le bateau se met dedans et il faut attendre d'en sortir. Voilà les tourbillons, ce style de tourbillon. Et voilà, nous sommes attirés par le tourbillon. Impossible donc de se diriger.
Et puis arrivent les premiers rapides. Et bien sûr, personne n'est attaché. Et Philippe, en plus, tient la caméra. C'est périlleux. C'est très périlleux. Et quand ils en sortent, et qu'ils posent le pied à terre, ouf, les moins expérimentés de la bande n'en reviennent pas de ce qu'ils viennent de vivre.
Pas mal, les mecs. Comme ça. Ne s'est pas retourné, il tient bien.
S'il s'est retourné, je ne m'en suis pas rendu compte.
Quand ils ont quitté Kinshasa, le fleuve était large de 23 km. Et maintenant, il fait 400 mètres de large. Vous avez compris? Ce sont des trombes d'eau qui déboulent dans ce goulet. Et plus il se retrécit, et plus le débit augmente. Sur les radeaux, les gars sont brinque-ballés de haut en bas, de bas en haut, sur des vagues puissantes. Mais ça passe. Et dans l'après-midi du 5 août, l'expédition fait étape sur l'île des Hippopotames pour souffler un peu. Avant d'aborder, demain, l'enfer du passage d'Inga, parce que ce qu'ils viennent de vivre n'est rien comparé à ce qui les attend. Mais pour l'instant, toute l'équipe fait étape sur une île, l'île des Hippopotames, un bout de terre au milieu du fleuve. Ils ont allumé un feu et ils sont là tous les 9 autour du feu et ça débat sec. Est-ce qu'il faut continuer? Il y en a qui veulent arrêter. C'est trop dangereux, les gars. Quand on voit ce qu'on en a bavé aujourd'hui, c'est miraculeux qu'on s'en soit sorti. C'est miraculeux. Si c'est pire après, Inga, faut lâcher. Et la discussion se poursuit sous les moustiquaires une bonne partie de la nuit. Philippe de Dieuleveux lui-même hésite. D'autant que ses deux copains, François Laurenceau et Jean-Louis Amblard, ont décidé d'arrêter là.
Non, il avait pas envie d'y aller, mais bon, il était quand même un personnage public. C'était le personnage le plus public de notre expédition. C'était, il avait une image, il pensait qu'il fallait y être allé, je pense, pour ça. Il a pris la décision de faire la dernière partie pour ça. Mais enfin, il avait, bon. Jusqu'au matin, il voulait pas y aller. Et puis le matin, la discussion avec les autres a fait que, au dernier moment, il a dit j'y vais. Et puis voilà.
lendemain c'est décidé, ils seront 7 à tenter l'aventure. Dont Philippe. François et Jean-Louis abandonnent. Et ils voient leurs copains grimper sur les radeaux et disparaître au loin dans les tumultes du fleuve. Ils prennent d'ailleurs des photos. Et tous les deux se retrouvent du coup coincés sur l'île des hippopotames. À plusieurs reprises, ils tentent d'entrer en contact par la radio avec le Françoise et le Gottlieb, les deux rafts. Ça ne marche pas. Bon bah écoute, maintenant, faut trouver un moyen de rejoindre le rivage. Ouais, mais vu les courants, je vois pas comment on peut faire. Ils sont là à tourner en rond sur cette île, au milieu du fleuve Zaïre, à se demander comment ils vont faire pour sortir de là, quand soudain apparaît une tête sur la rive. Un pêcheur qui flotte sur une grosse bouée, une chambre à air de camion, et qui se déplace en utilisant de petites écopes comme rame.
Vous pourriez nous aider à passer de l'autre côté ?
Le gars répond que oui. Et un par un, il les dépose sur la rive du fleuve. Et c'est là que ça se complique. Car ils tombent sur des militaires zaïrois qui les arrêtent sur le champ et les emmènent dans un camp plus au sud, à Matadi. Et là, on les fait poireauter dans une pièce pendant des heures, sans rien leur dire et surtout sans leur donner la moindre nouvelle de leurs 7 copains. Et puis arrive la nuit et commence un interrogatoire.
C'était des questions assez surréalistes. Du style, on nous demandait ce qu'on pensait de Mobutu. Quand on a 10 militaires zaïrois avec des armes autour de nous, on va en dire que le plus grand bien. On avait surtout l'impression qu'ils nous posaient des questions pour passer le temps, pour qu'on soit pas dehors, pour qu'on cherche pas.
Et tout en nous répondant, mais vous inquiétez pas, on s'occupe d'eux, vous inquiétez pas.
Il se trouve que ce soir-là, à Kinshasa, la capitale, un journaliste de l'agence France-Presse dîne chez l'ambassadeur de France. Et il apprend au cours du dîner que 2 rescapés ont été arrêtés par l'armée zaïroise. Mais surtout que les 7 autres ont disparu. Il appelle son rédacteur en chef à Paris, ils hésitent un petit moment et puis ils balancent la nouvelle, reprise immédiatement par toutes les radios.
Et puis cette information que nous recevons du Zaïre, de Kinshasa exactement, et qui concerne notre ami Philippe de Dieuleveux, qui vous le savez sans doute, est parti là-bas pour descendre le fleuve Zaïre. Philippe de Dieuleveux aurait disparu au Zaïre avec 7 de ses compagnons. Les autorités zaïroises nous font savoir qu'elles font actuellement des recherches, notamment avec des avions, mais ces recherches sont très difficiles.
Le 9 août, Gurnaud, le caméraman qui était rentré à Paris, est de retour. Et avec Gérard Daboville, le navigateur qui a conçu les embarcations, et François Laurenceau, ils décident de louer un hélicoptère et de suivre le fleuve jusqu'au barrage d'Inga par les airs.
C'est, je pense, l'endroit le plus effrayant que j'ai vu de ma vie. Et j'ai vu des mers dures, des montées, etc. C'est un endroit véritablement stupéfiant. À 10 km, on entend le bruit des rapides.
C'est Paris Match qui finance l'opération.
Hé, hey, là, regarde, c'est l'un des radeaux.
C'est le Françoise. Il est amarré à un rocher dans une crique. Il a l'air en parfait état, mais il n'y a personne à bord, ni autour. Le lendemain, ils y retournent, toujours en hélico, et ils localisent le Gottlieb, échoué. Mais là, le radeau est en mauvais état. Il ne reste que la structure. Il a été pillé par les villageois. Mais là encore, personne aux alentours. Et il constate aussi à quel point le fleuve est dangereux à cet endroit-là. Des rochers qui apparaissent et qui disparaissent, des trous d'eau gigantesques. Et là, un terrible scénario s'impose. Ils se sont noyés. Ils se sont noyés, tout simplement. Nous sommes 10 jours après le drame. Jean-Louis Amblard et François Laurenceau sont toujours sur place pour rechercher leurs copains. Et là, la police zaïroise leur fait comprendre qu'il faut rentrer en France, tout de suite.
Quels ont été les termes employés, je ne sais plus, mais on n'a pas eu le choix de rester sur place. C'était, bon, maintenant c'est bien, vous avez fait ce qu'il fallait, mais maintenant, vous nous laissez faire et vous rentrez.
Là, on se pose des questions. Il n'y aurait pas eu tout ça, on serait dit, bon, ils sont noyés. C'était la première conclusion à laquelle on devait arriver. C'était... Mais devant toute cette espèce d'agitation et de folie, on s'est dit, c'est passé quelque chose.
Et 5 jours plus tard, le 20 août, les Aérois retrouvent un corps.
Il était environ 17h hier soir. Un employé des installations portuaires de Beaumar signalait la présence d'un corps dérivant sur le fleuve Zaïr. Le corps était celui d'un Européen revêtu, d'après ce que l'on sait, d'un filet de sauvetage. Il a pu être repêché et ramené sur la rive. Aussitôt, les autorités civiles de la région ont été alertées de cette découverte qui intervient 2 semaines jour pour jour après la disparition des membres de l'expédition et surtout à près de 100 km en aval des rapides d'Inga.
Le corps est vite identifié grâce à la chaînette en or qu'il porte autour du cou. C'est Guy Collette, ce chef d'entreprise belge qui aimait l'aventure. Son corps est examiné sous toutes les coutures, il n'y a pas de blessure, mais l'un de ses avant-bras est cassé. A priori, il est mort, noyé. Et puis l'armée française entre en action. Le Zaïre est au cœur de la France-Afrique. Elle survole le fleuve à plusieurs reprises pour tenter de localiser les autres corps. Les militaires français jettent aussi de gros barils de 70 kilos dans le fleuve pour évaluer le chemin qu'auraient pu faire les corps si les radeaux se sont retournés. Le baril s'enfonce parfois pendant 30, 40 secondes sous l'eau, ce qui accrédite l'hypothèse selon laquelle Philippe et ses 6 compagnons sont morts noyés et que sans doute les corps sont coincés sous l'eau. Mais on ne va pas en rester là. Car dans les jours qui suivent, un témoin débarque dans cette histoire. C'est un ingénieur qui travaille au barrage d'Inga. Le barrage se trouve sur la rive opposée de l'endroit où on a retrouvé les rafts.
Aux jumelles, comme j'avais pris les jumelles cette fois-là, j'ai pu remarquer l'embarcation. Tout de suite, je n'ai vu personne. Mais 5 minutes après, j'ai vu quelqu'un sortir de l'embarcation, aller vers la rive, revenir dans l'embarcation, prendre un sac et retourner sur la rive. En faisant attention, après alors j'ai vu 2 personnes debout dans l'embarcation qui rangeaient des sacs jaunes, identiques à ceux que j'avais vus avec les 2 qui avaient abandonné l'expédition.
Qui étaient ces hommes? Des coéquipiers de l'expédition? Ou des villageois venus piller les radeaux? L'ingénieur était trop loin, il n'est même pas capable de dire si les hommes qu'il a vus à la jumelle étaient blancs ou noirs. L'armée française envoie alors des hommes sur place, dans la crique où on a retrouvé le Françoise, le radeau sur lequel se trouvait Philippe. Il retrouve des objets, dont certains appartiennent à Philippe.
Caché donc sous la pierre, là.
Sous la pierre, là.
Oui.
Et François. Beaucoup de matériel, là-bas, au fond, dans ce trou. Là. Bien caché, hein, bien enfoncé,
bien enfoncé, voilà. Et protégé.
Officiellement, pour les autorités françaises et zaïroises, les 7 navigateurs se sont noyés. Mais un doute subsiste. Est-ce qu'ils auraient pu être victimes de l'armée zaïroise? Est-ce que les soldats zaïrois les auraient pris pour des mercenaires et les auraient abattus comme des chiens? C'est une piste, parce que le barrage était très protégé à l'époque. Le gouvernement zaïrois craignait une attaque. On découvre que le 6 août, jour du drame, les forces zaïroises étaient déployées autour du barrage. Elles étaient en alerte. Alors, l'expédition a-t-elle été victime d'un quiproquo? En novembre 1985, les Aérois prétendent avoir retrouvé le corps de Philippe de Dieuleveu.
Disparu depuis 4 mois avec 6 de ses compagnons d'aventure, 1 mois de recherche par 30 de militaires français n'ont permis de retrouver qu'un seul corps, celui du Belge Guy Collette. Et toujours des incertitudes. Philippe et les compagnons de son radeau, que l'on a retrouvé pratiquement intact, ont-ils été interceptés sur les rives du fleuve par un commando ou séquestrés quelque part? La famille ne croit pas à la noyade. On a tenté en effet de lui remettre un corps en faisant croire que c'était celui de Philippe. Les preuves, un téléx du consulat de France au Zaïre affirmant qu'un deuxième corps, retrouvé dans le fleuve, était celui de Philippe de Dieuleveux, après autopsie à Kinshasa. Et puis les résultats d'une seconde autopsie pratiquée à Paris à la demande de la famille et affirmant que ça n'était pas Dieuleveux. Il était reconnaissable à une fracture de la clavicule et une appendicite. Ça n'était même pas un membre de l'expédition.
Le dernier rebondissement date de 2008. Une journaliste du magazine 21 affirme que Dieuleveux et ses compagnons ont été exécutés par les services secrets aérois, accusés d'espionnage. Cette journaliste aurait recueilli le témoignage d'un espion aérois qui lui aurait raconté leur exécution. Voilà ce qu'il lui aurait dit. Ils ont été emmenés derrière un petit muret et tabassés. Nous avions l'ordre de les faire parler. Le nom qui faisait peur, c'était Dieuleveux, le chef de bande d'après les consignes. Il était têtu. Personne n'a avoué. Et ensuite, l'unité qui s'occupait des exécutions a pris le relais. Un témoignage dont il est très difficile d'apprécier la valeur, mais qui colle avec quelque chose qui est absolument certain. Philippe de Dieuleveux n'était pas qu'un journaliste aventurier. Il travaillait aussi pour les services de renseignement français, pour la DGSE, ça c'est une certitude. Mais rien n'atteste que dans cette expédition sur le fleuve Zaïre, il était mandaté par la DGSE. Rien.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.